Nous voulons partager la parole que le Seigneur souhaite, je le désire, en tout cas j'espère, nous apporter pour nous édifier. Alors, j'aimerais partager avec vous un passage particulier. Qui m'est venu suite à plusieurs interventions qui ont eu lieu ces trois dernières semaines, où le nom d'un personnage a été cité. C'est un personnage que moi, j'ai regardé avec attention dans l'Écriture et qui n'est pas très connu. Mais il a été cité trois fois, deux fois, me semble-t-il, par Emmanuel Maenlein lorsqu'il est venu dans l'Église, et puis une fois aussi par Michel récemment. Et ces citations m'ont conduit à retourner vers ces passages de l'Écriture qui le concernent. Et puis, les circonstances aussi, puisque hier, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y avait la collecte pour les Restos du Cœur dans toutes les grandes surfaces, à peu près. Et nous y avons participé avec l'Église pendant de nombreuses années. Je me rappelle que notre record, c'est d'avoir en une journée récolté 2,2 tonnes de nourriture. 2,2 tonnes. Vous imaginez le nombre de caddies que ça représente. Eh bien, hier, c'était la collecte de la banque alimentaire, non, des Restos du Cœur. Et du coup, ça m'a fait penser à ce texte-là, ou ces trois textes que nous allons lire ensemble. Le premier se trouve dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9 et au verset 1. On se trouve confronté à un personnage qu'on connaît bien, David, et deux autres personnages qu'on connaît beaucoup moins, le fils de Jonathan et le serviteur de ce fils, donc ce fils qui a un nom un peu compliqué à retenir, qui s'appelle Mephibosheth. Tout le monde sait qui c'est ? Ça va ? Tout le monde y est ? Je vois des visages dubitatifs en se disant, qu'est-ce qu'on va tirer de ça ? On préfère les grands héros de la foi, là on nous parle d'un homme... très peu connu, certes fils de Jonathan, hein, le meilleur ami de David, mais un homme infirme, un peu en difficulté. Alors, on est à cette période où David est installé dans sa royauté, et à un moment donné, il dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Et il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David dit, « Mephibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. » Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Deuxième livre de Samuel, chapitre 16, verset 1. Un autre épisode qui se passe à un moment où le roi David est en opposition avec des adversaires et qu'il est obligé de s'éloigner de Jérusalem et de prendre de la distance face aux adversaires. Lorsque David, 2 Samuel 16, 1, eut un peu dépassé le sommet, voici Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui, avec deux ânes battés sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui sont fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon serviteur, mon seigneur. » Troisième passage, deuxième livre de Samuel, chapitre 19, verset 24. On est à un épisode où, en fait, David a réussi à reconquérir et Jérusalem et son trône. Et voici que Méphibosheth vient à sa rencontre. Méphibosheth, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi dit « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth ? » Et il répondit, « Ô roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, « Je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. » Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qu'il te semblera bon, car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir ? Et qu'ai-je à demander au roi ? » Le roi lui dit, « À quoi bon toutes ces paroles ? Je l'ai déclaré. Toi et Tsiba, vous partagerez les terres. » Et Méphibosheth dit au roi, « Qui prenne même le tout ? Puisque le roi, mon seigneur, rentre en paix dans sa maison. » Voilà, j'avais ce trois textes un petit peu éclatés dans l'histoire du roi David, mais qui racontent l'histoire de cette relation et du comportement de David par rapport à cet homme qu'est Méphibosheth. Rapidement, Méphibosheth est le fils de Jonathan, c'est-à-dire le petit-fils du roi Saül. Et David étant installé à Jérusalem, étant installé dans sa royauté, se souvient tout à coup du serment qu'il a fait avec Jonathan. On le retrouve dans 1 Samuel 20:14. Jonathan parle et dit « Si je dois vivre encore, » il s'adresse à David, « veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. » Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David du dessus de la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Et donc David a fait alliance avec Jonathan. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la question de la bonté et de la bienveillance. D'où le lien que je fais avec la collecte qui a eu lieu hier dans toute la France pour récolter de la nourriture pour les personnes en précarité. J'ai été pendant 12 ans responsable de la structure s'occupant des SDF sur l'Orient et j'avais mis en place avec des SDF que j'avais remis en logement, ce qui était quand même quelque chose d'assez génial. J'aurais dit, écoutez, vous avez vécu quelque chose de positif, vous étiez à la rue, on a pu reconstruire un projet de vie ensemble et maintenant vous avez un logement, certains de vous ont un travail. Est-ce que vous seriez d'accord d'aider ceux qui sont dans la situation que vous avez connue. Et dans un premier temps, j'ai fait les collectes pour la banque alimentaire avec les SDF qui avaient retrouvé un logement. Parce que nombreux avaient dit, mais ouais, nous, on a tellement été au bénéfice du soutien et de l'aide des associations, de la ville, etc. Alors, il est bon qu'on fasse la même chose. Et on a commencé à faire la collecte de la banque alimentaire avec des SDF. C'était quelque chose d'assez génial, parce qu'ils étaient un peu dans la même posture que devraient avoir les chrétiens, qui ont été sauvés par Christ, qui ont été au bénéfice de la grâce, et qui tout à coup se disent, est-ce que je ne peux pas partager ce que j'ai reçu avec ceux qui ne l'ont pas? Et une des paroles qu'on a entendues ce matin, c'est, vous êtes dans ce monde, il ne s'agit pas de rester enfermé dans l'Église entre vous, dans l'entre-soi, mais aussi d'être ouvert à ceux qui sont autour de vous, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont faim et soif de justice, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le salut, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas leur Père céleste. Est-ce que vous pouvez garder entre vous le trésor que vous avez reçu ? Et c'est un petit peu dans cet esprit-là que je lis ce texte-là, parce que les SDF ont d'abord aidé à récolter de la nourriture pour les autres SDF, parce qu'ils s'en étaient sortis, et que les chrétiens, finalement, de l'Église apostolique de Kévan ont dit et nous, est-ce qu'on ne peut pas le faire ? Et donc, on s'est retrouvés parfois avec des ex-SDF, et puis des chrétiens de l'Église apostolique de Kévan à récolter. Et alors, le plus grand moment que j'ai vécu, c'était un copain qui était propriétaire du ce qui est Leclerc maintenant, mais qui était l'Intermarché quand ça a été construit. Et ce copain, il m'avait dit, toi, tu peux venir avec les groupes que tu veux, etc. Et je me rappelle qu'on avait récolté de la nourriture pendant toute une journée. Et à la fin de la journée, il était venu, il dit, alors, ça a marché. Puis nous, on a dit, ouais, c'est pas mal, oui, vraiment, les Kévenois ont été fidèles. Et puis, il était 19h, le magasin fermé, on était encore quelques-uns là à faire cette collecte-là. Et puis, Maëlys, à l'époque, était là, elle devait avoir 9 ans peut-être, 10 ans. Et puis, Laurent, cet ami, a regardé Maëlys et dit, vous avez récolté de tout. Et puis, Maëlys a dit, ouais, il y a eu de tout, mais vraiment de tout. Puis Maïs a dit, oui, peut-être il manquait des choses pour les enfants, etc. Alors il a dit, viens avec moi. Puis il a emmené Maïs dans le magasin. Les caissières étaient en train de ranger leur caisse, tout, de terminer. Et puis il a dit, prends un chariot. Et puis Maïs, qui est là, elle est là, il faut lui demander. Elle était d'un rayon. Et il dit, mais qu'est-ce que tu penses que les enfants, ils aimeraient avoir? Et puis Maïs lui a dit, je sais pas, ils ont eu des pâtes, des raviolis, mais il n'y a pas eu beaucoup de bonbons. Ah, mais ouais, les enfants n'ont pas eu de bonbons. On dit, on y va. Puis, moi, j'étais là à côté, je regardais. Et Laurent a dit, vas-y, prends des bonbons pour les enfants qui sont en difficulté. Alors Maëlys, elle a pris 2, 3, 4, 5 bonbons. Puis Laurent a dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Elle a dit, ah bon, comment faut faire ? Alors, il a mis son bras à l'intérieur du rayon et il a fait tomber tout le rayon dans le caddie. Vous auriez vu le sourire, l'émerveillement, l'étonnement de Maëlys quand Laurent a fait ça. Et après, vous savez, le moment le plus génial qui a été, une fois qu'il a fait ça 2-3 fois, le caddie était rempli de bonbons, de douceurs, de biscuits, etc. Il a dit, on va aux caisses, puis Maëlys... Mais le moment le plus génial, c'est quand, en arrivant à la caisse, elle a traversé les caisses. Elle dit, tu t'arrêtes pas, tu continues. Et elle a regardé la caissière comme ça. Elle dit, oh, c'est génial de faire les courses comme ça. Vous savez quoi? Ce jour-là, je pense que Maëlys, elle a compris ce que c'était que la grâce, la gratuité. Dans ce monde, tout est à acheter ou à payer. Mais là, ce soir-là, celui qui était le propriétaire du magasin, ça c'est, si jamais il y avait quelqu'un qui était propriétaire d'un magasin, au milieu de nous, ça peut donner des idées. Ce jour-là, c'était gratuit. Et est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons dans notre rapport à Dieu? Il est le propriétaire. Et sa grâce et sur notre vie. Est-ce que nous pouvons la partager? Le roi David, dans ce récit de 2 Samuel 9, 1, se souvient de ce qui s'est passé entre lui et Jonathan. Il se souvient de cet engagement et de cette alliance que Jonathan a fait avec lui en disant « Ne retire jamais ta bonté envers ma maison ». Et le mot hébreu que j'aime particulièrement dans ce texte-là, la bonté, c'est le chesed. Le recède, c'est la bonté parfaite qui est celle de Dieu. Vous savez, Dieu a fait alliance avec moi, avec vous, afin que sa bonté ne s'éloigne pas de notre vie. Que ferons-nous de cela? Que ferons-nous de cette alliance? Est-ce que nous serons de ceux qui disent « c'est pas une alliance qu'on garde simplement pour nous » Est-ce que nous allons la partager? Est-ce que nous allons vendre nos kiwis sur le marché? Par exemple. Je dis ça parce qu'on a eu une info qui est venue depuis la Suisse où on voyait photo d'un gars qui vendait des kiwis sur le marché. Il les donnait pas, il les vendait quand même. Et c'était Rémi. Et c'est venu de la Suisse. C'est comme ça qu'on a appris que Rémi vendait ses kiwis sur le marché de la Nestère. Donc, est-ce que nous pouvons être de ceux qui partagent la grâce que nous avons reçue? David, lui, on pourrait dire que ça a été parfois, dans l'Écriture, un modèle de Christ. Oui, certainement. Si on lit le psaume 23, si on lit certains de ses écrits, parfois certaines de ses expériences. Mais ce qui est notable, j'ai envie de dire qu'en ce qui me concerne, je considère que David a davantage été un modèle pour les croyants. C'est-à-dire que dans sa vie, il a eu des hauts et des bas, il s'est planté, il a eu des victoires, il a eu des temps de découragement, il a eu des faiblesses et des difficultés. C'est un homme qui a manifesté une estime de soi très fragile à de nombreuses reprises. On le voit bien dans les psaumes qu'il a écrits, qu'il nous a transmis. Et je trouve qu'il est un modèle des croyants, de celui qui a reçu, qui a été sauvé, qui a reçu le salut de Dieu et qui cherche à le partager. Et David se rappelle, alors qu'il est installé à Jérusalem, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? À cause de Jonathan, à cause de l'alliance que j'ai faite avec son père, toute la maison de Saül avait été dévastée. Et à cause de son infidélité, de ses pratiques occultes, hein, dont on a parlé, de l'ésotérisme, à un moment donné, il invoque les morts, ce qui était interdit en Israël, eh bien, toute sa maison a disparu, Jonathan a été tué au combat, et il se dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui subsiste que je pourrais, pour lequel je pourrais faire du bien? Et il y a un serviteur, Tsiba, drôle de mec ce type, hein, pourrait se dire, oui, c'est un bon serviteur, il répond tout de suite à David, mais on voit bien que Tsiba, c'est un serviteur. Je vous ai fait un peu la voix de Is No Good dans le deuxième texte. Hein. Quand le roi est en difficulté, qu'il est parti, vous avez Tsiba qui se dit, oh là, il faut se positionner là. Alors qu'il avait présenté Mephibosheth, qu'il servait, puisqu'il était de la maison de Saül, eh bien, quand le roi est en difficulté, il dit « Ah, c'est peut-être bien d'aller le soutenir. » Donc, il va au-devant avec des ânes, etc. Et puis, le roi, un peu méfiant, dit « Mais tu veux faire quoi de ça ?» Et puis, Tsiba, ben, en fait, les ânes serviront de monture pour la maison du roi. Puis, le pain et les fruits pourront nourrir les jeunes gens. Et le vin des altérés se... Voilà, je suis venu comme ça, juste pour t'aider, pour te rendre service. Et du coup... le roi va demander à Tsiba, mais où est ton maître, Mephibosheth, que tu dois servir? Et là, Tsiba lui raconte des histoires et lui dit, ah ben mon maître, il est resté à Jérusalem parce qu'il a dit, en fait, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père, Saül et Jonathan. Ah, d'accord. Et Tsiba raconte des histoires, en fait. Et le troisième récit, vous le voyez, au moment où le roi revient à Jérusalem, parce qu'il a remporté la victoire et qu'il peut à nouveau prendre la gouvernance d'Israël, il y a Mephibosheth qui arrive dans un état lamentable. Mephibosheth est boiteux, on le voit dans le premier livre de Samuel, il a eu un accident, il a les deux pieds complètement déformés, il ne peut pas marcher, il est obligé d'être assisté, d'où la présence de serviteurs, etc. Et en fait, il n'a pas pu s'en aller parce que, dit-il, Tsiba a profité de son infirmité pour prendre des ânes, etc., le lester à Jérusalem et puis le critiquer au regard de David. Vous imaginez la scène un petit peu, là? C'est presque une scène de théâtre, hein, à faire pour Noël, peut-être. Il y a des personnages, des bons, des mauvais. Et on se trouve, en fait, avec cette rencontre de Mephibosheth et de roi, et on voit bien dans la réponse de Mephibosheth qui répond au roi, qui dit « Mais t'étais où quand j'étais en difficulté ?» Et Mephibosheth dit « Bah, mon serviteur m'a, m'a laissé de côté et j'ai rien pu faire parce que je suis boiteux, je peux pas me déplacer. Le mot Mephibosheth, le nom de Mephibosheth divise un petit peu. Certains disent que c'est un nom qui serait en lien avec Baal, et en fait d'autres disent que c'est un nom qui parle du rejet de la honte, le rejet de la honte. Moi, j'aime bien cette notion-là. Certains disent que c'est héros de Baal ou Baal est mon défenseur, mais dans le judaïsme, ce nom-là, c'est plutôt quelque chose qui parle du rejet de la honte. Moi, j'aime bien. Parce que David, quelque part, va prendre soin de Mephibosheth en faisant preuve vers lui de bonté et donc d'un mot que je souhaiterais que vous gardiez, c'est de bienveillance. Quelle est la place de la bienveillance dans notre vie? Est-ce que nous sommes à ressasser, à tenir des positions, à avoir des attitudes qui, quelque part, sont là pour nous mettre en position soit de supériorité ou de rejet de celui qui est fragile. La rencontre que David fera au préalable, c'est une rencontre qui repose sur cette phrase « Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté ?» En fait, c'est le mot recède de la bienveillance de Dieu. Et Tsiba répondit « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » En fait, le désir de David, c'est d'user de bienveillance. Et la bienveillance, c'est la disposition du cœur à faire du bien, à aimer faire du bien. Ça, c'est tout à fait mon portrait. De temps en temps. Parce que notre nature humaine n'est pas spontanément disposé à être dans « je veux faire du bien ». Dans la Bible, la bonté et la bienveillance sont souvent la traduction d'un même mot, et on pourrait dire que la bienveillance, c'est la manifestation de la bonté. Et j'aime bien cet ordre-là. La bonté produit des actions bienveillante. Le fait d'être bon inspire des sentiments et des actes de bienveillance. Être bienveillant, c'est aimer faire du bien. Ceux qui possèdent ces qualités sont naturellement généreux. Et je pensais à Laurent, cet ami qui était propriétaire du magasin ici. En fait, je l'ai connu parce que je faisais l'hébergement des SDF sur l'Orient. Et il me fallait 120 bénévoles entre le 1er décembre et le 31 mars pour les héberger ici sur la zone de Kerfichan. Et j'ai eu 120 personnes tous les ans. J'avais toujours 120 personnes pour l'hébergement et le repas des SDF le soir. Jamais j'ai été en manque de bénévoles. Et Laurent faisait partie de cela. Et quand il y avait souvent des hommes et des femmes qui venaient faire le repas, qui restaient jusqu'à 22h, et j'avais une équipe de bénévoles qui venait de 22h à 7h pour assurer, dans un bungalow à côté d'un vieux bâtiment de ferme, l'hébergement des SDF de Lorient. On avait 25 lits. Et j'ai passé des nuits assez géniales dans ce bungalow avec un bénévole tous les soirs pour assurer la sécurité des SDF. Et Laurent s'est inscrit. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ce gars qui avait une entreprise sur le port de pêche, qui avait tout vendu pour acheter un magasin, etc., trouvait tout à fait normal dans ses activités, une fois qu'il avait fermé son magasin, de venir assurer la garde et la sécurité des SDF de Lorient. Ça, c'est de la bonté. Ça, c'est de la bienveillance en action. Et ça nous dit aussi que cette bonté, quand Jonathan s'appuie sur l'alliance qu'il fait avec David, c'est une alliance qui découle de ce que Dieu est dans son cœur et dans sa vie et ce qu'il veut que Dieu soit entre lui et David. Dieu est un Dieu de bonté, un Dieu de bienveillance. Ne nous y trompons pas. Lorsqu'il est parlé de la bonté et de la bienveillance, ce n'est pas des qualités humaines qu'il s'agit de travailler. Il s'agit de laisser la nature de Dieu et la nature de Christ prendre en nous la place de notre nature humaine qui est tentée, qui est dirigée vers l'ego, vers soi, vers ses intérêts. Dieu est bon et c'est pour cela que je suis appelé à être bon. Dieu est bienveillant envers ses enfants et c'est pour cela que sa nature en moi et la nature de Christ me conduisent à être bon et bienveillant. Michée, le prophète, dira « Quel Dieu est semblable à toi ? Quel Dieu est semblable à toi ? Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Miséricorde qui est aussi une autre manière de traduire la bienveillance. Dieu trouve plaisir à la miséricorde, à la bienveillance. Quel Dieu est semblable à toi ? Alors moi, je veux bien croire dans un Dieu qui a une tête d'éléphant, je veux bien croire en un Dieu qui a une tête de chacal en Égypte, je veux bien croire à tout. Mais est-ce que ces dieux-là font preuve de la miséricorde et de la bienveillance que Dieu, le Créateur, manifeste en Jésus-Christ en donnant son Fils ? C'est là la grande différence. Voici, dira un autre prophète qui s'appelle Jérémie au chapitre 33, verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Amen ! Amen. Dans tous les sens du terme. J'aime ce Dieu-là. J'aime ce Dieu-là qui dit cela me concernant et te concernant. Voici ce qu'il veut te donner. Et le fruit de l'esprit, me direz-vous ? Eh bien, le fruit de l'esprit, c'est la bienveillance. Malgré que nous constatons ça et là des sentiments et des actes de bienveillance, nous sommes bien obligés de reconnaître que nos limites dans ce domaine-là, sont assez limitées, vite atteintes. Alors bien sûr, on a un cercle dans lequel on se dit « Ah ouais, là, la bienveillance, c'est naturel. » Quoique, ma femme, mon mari, c'est normal d'être bienveillant. Il y a des fois, quand je parle à ma femme, je ne suis pas certain que ce soit la bienveillance qui s'exprime. Quand je suis énervé, il y a récemment, elle me disait « Mais arrête de souffler. » Elle m'avait dit quelque chose. Je n'ai jamais fait ça. Oh, c'était un soufflement de bienveillance. Hein. J'ai des doutes. Quand on a des enfants, on se dit, ouais, hein. On est bienveillant avec eux. Mais parfois, ça atteint des limites. Je fais la préparation au mariage des couples dans l'église. J'insiste énormément sur cet aspect-là. La bienveillance, c'est pas afin de préparer ce jour où devant l'église, voire à la mairie, je vais lui dire oui. Ah là, il faut que je les prépare pour qu'ils soient bienveillants à ce moment-là. Non, non. Il s'agit qu'ils comprennent que la bienveillance et la bonté doivent imprégner leur relation jour après jour, après jour, après jour. Jusqu'à la 20. Et je vous assure, c'est les 80 premières années qui sont difficiles. Après, ça roule. N'est-ce pas, Agnès ? Hein ? C'est plus facile ? Non ? Ça fonctionne. C'est bien. Amen. Mais ça fonctionne parce que aussi il y a l'entraînement à la bienveillance. On apprend à être bienveillant. On apprend à être bon vis-à-vis de l'autre. Le fruit de l'esprit, c'est la bienveillance. Nous avons besoin, dans les fruits de l'esprit de Galates 5, de toutes les vertus révélées en Dieu. Ayez en vous, dit Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 5, tous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tous les sentiments. Voilà le programme, frères et sœurs. Ni plus, ni moins. Et au regard de ce programme, se pose la question, j'exécute ce programme-là dans ma relation à mon conjoint, à ma femme, à mes enfants, à mes parents, à mes proches, à mes collègues de travail, à la caissière qui a un visage tellement triste, tellement fermé quand je vais faire mes courses. Est-ce que je fais preuve de bienveillance à celui que je croise dans la rue? En fait, à tous ceux que Dieu place sur mon chemin. Est-ce que j'ai en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Lorsqu'il marchait, tous ceux qu'il croisait, on le voit dans les évangiles, ont été l'objet de sa bienveillance. Une femme prostituée, une étrangère, une syrophénicienne. J'aime beaucoup ce texte, j'ai évoqué ça dans un temps de formation avec un jeune homme là, il y a quelques jours. Et il est étranger, un peu comme moi je le suis à moitié. Et je dis, quand on lit l'évangile, parfois, vous savez, la femme syrophénicienne qui vient, qui dit, j'ai une fille qui est possédée, est-ce que tu peux faire quelque chose? Il dit, mais est-ce que je suis là pour donner à manger aux petits chiens? Moi, je suis là pour la maison d'Israël. Hein. Quand on lit ce texte-là, on se dit, waouh, elle est où la bienveillance? Et en fait, c'est la première fois où Christ va agir et intervenir vis-à-vis de non-juifs. Et juste après la guérison du sourd-muet, habitant de la Décapole, étranger, il continue le travail. Je pense que les juifs, ils ont dû être un peu déboussolés. Oh, il était là pour nous, non? Qu'est-ce qu'il fait, là? Acte de bonté et de bienveillance. Avant de se traduire par des paroles et des œuvres, la bienveillance doit premièrement naître dans notre cœur. Et c'est là que l'Esprit Saint intervient. On peut se dire, mais comment je peux être bon et bienveillant en accueillant l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit Saint est de la même nature que Dieu, que Christ. Et si l'Esprit Saint est en vous, alors ça vous permet de parler en langue. Waouh, c'est génial! Alors ça vous permet de prophétiser. Waouh, c'est fabuleux! Alors ça vous permet peut-être de prêcher. Waouh, c'est pas mal non plus. Non, mais ça peut vous permettre aussi de manifester la nature de Christ dans toute sa dimension. Et faire en sorte que la nature nouvelle que Dieu fait naître en nous, lorsque nous croyons en Christ, que nous le recevons comme Sauveur et Seigneur, s'établisse, se construise et aille vers l'autre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, c'est-à-dire Christ, donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir des enfants de Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit manifester sa nature. Et parce que vous êtes des fils, dira Paul aux Galates, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père, Papa ». Ouais. L'Esprit en vous dit « Papa à Dieu ». Au début, moi dire « Papa », mon père génétique, je l'ai connu qu'une semaine, donc dire « Papa », ce n'était pas facile. J'ai commencé à dire « Papa » quand j'avais 5 ans, à quelqu'un qui n'était pas mon père génétique, mais qui est devenu mon père, et un père de cœur. Hein. Mais du coup, dire « Papa » à Dieu, je disais « on va peut-être marquer hein, de la distance et du respect. » Dieu, mon Dieu. Mais dire « Abba », c'est ça en hébreu, hein, c'est « Papa ». J'hésitais. Alors j'entendais des personnes, alors souvent des personnes âgées qui disaient « Papa ». Je trouvais ça, je dis « Waouh, il faut être vieux pour avoir cette familiarité avec son Dieu. Hein. » Comme je suis trop jeune pour ça, aujourd'hui encore. Non, je vous interdis de sourire. Hein, Mais aujourd'hui, je peux dire « Abba, mon Père ». Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 23. En fait, il y a deux mots, c'est la bonté et la bénignité. Pas facile à dire, hein, bénignité. On ne l'utilise pas beaucoup aujourd'hui, hein, je vous rassure. Mais les deux parlent en fait de la bonté et de la bienveillance. C'est-à-dire la bonté est notamment en lien avec le terme grec qui est lié à agapé. L'amour agapé. Il ne peut pas y avoir d'amour agapé sans qu'il y ait comme fruit de l'esprit la bonté et la bienveillance. Ah oui, mais moi, l'agapé, aucun problème. Il est là. Mais où est la bonté, la bienveillance dans ce que tu vis, dans ta relation à l'autre? Lorsque David s'inquiète de l'alliance qu'il a fait avec Jonathan, en se disant, mais est-ce qu'il y a encore quelqu'un de sa famille? Et il appelle Tsiba, le fameux Tsiba. Moi, j'avais toujours l'impression de l'appeler Is No Good. Hein, c'est le vizir qui veut être à la place du vizir. Hein, ou, voilà. Où est-il ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Et là, vous avez Tsiba qui dit « Ah bah oui, bah, moi je suis serviteur de la maison de Saül, donc il reste un fils qui est là, celui qui est handicapé, celui qui a les pieds blessés, qui est boiteux, etc. Où est-il ? » En fait, David, et moi j'aime dans ce récit cela, pose la même question que Dieu dans le Jardin d'Éden. « Où es-tu ? » pour que j'use de mon amour envers toi. Même si, en l'occurrence, dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève sont cachés parce qu'ils se sont séparés de Dieu, ils sont pécheurs. Là, ici, David dit la même chose. Où est-il pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de mon alliance avec Jonathan, son père ? En fait, David fait ce que Dieu a fait dans le Jardin d'Éden et ce que nous sommes appelés à faire dès lors que nous sommes chrétiens, croyants et habités du Saint-Esprit. Il nous est demandé de chercher l'autre. De chercher l'autre. Pas simplement d'avoir un regard qui survole. Ah oui, donc celui-là, il faut que je m'en occupe. Ou celui-là, ouais, il faut que j'ai... Non, non, de le chercher, de le rencontrer. Et pas simplement de le rencontrer à la légère. David l'invitera à sa table et il dira « Désormais, tu seras invité à ma table tous les jours. » Est-il au fils de Jonathan. Alors, où es-tu ? Et la réponse de Tsiba, elle est très intéressante au terme symbolique du terme. C'est que quand Tsiba dit « Où il habite ?» Mephibosheth, il dit, il habite chez Makir, qui est un premier-né de Manassé, un peu une araméenne et syrienne, donc il est à l'étranger, il est loin, quelque part, et il habite à Lo-Débar. Et c'est certainement pas un hasard si Mephibosheth habite à Lo-Débar. En hébreu, Lo-Débar, c'est pas de parole. Espace sans parole. C'est très intéressant parce qu'il y a dans la Bible un livre qui s'appelle le livre de la parole. C'est le livre du Deutéronome. Le Deutéronome, c'est le dernier acte qui a été donné par Moïse à Israël avant que lui aille mourir sur la montagne, on ne sait pas ce qui s'est passé, et que le peuple entre dans la terre promise. Quand le peuple est arrivé devant la terre promise, c'était tous les rescapés des 40 ans de désert. Qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là et demande à Moïse de faire ? C'est de leur transmettre à nouveau, à eux, de manière personnelle, la parole. Et c'est pour ça que ce livre s'appelle le livre de la parole, parce que les premiers mots, c'est « Adébarim ». Débar. Lo-Débar. Adébarim. Le livre des paroles. Et en fait, Dieu va donner à Israël, à cette génération qui n'avait pas eu la parole, la loi. Il va lui redonner la loi afin qu'elle soit une loi personnelle et pas celle de papa et de maman. Et il se trouve qu'ici, on a Mephibosheth qui est dans un endroit où il n'y a pas de parole. Dans ce sens-là, on va dire que oui, il y a une position de la part de David, une position christologique. Il vient apporter une parole à celui qui est dans le désert, sans parole vivante. Il est dans un lieu, aucune parole ne vient le rencontrer. Alors tu vas lui dire, tu vas lui apporter la parole. La bienveillance passe déjà par la transmission d'une parole vivante. Tu vas lui dire, toi Tsiba, de venir vers moi, et voilà, je vais être bon envers lui. Ouais. Est-ce que nous sommes dans notre perception de croyants, capables d'être comme David, des porteurs de paroles vivantes, de bonté, de bienveillance? Pour celui qui est à Lo-Débar, dans un lieu sans espérance et sans parole. Ça nous renvoie à ce prologue de l'évangile de Jean, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. » Nous sommes porteurs de cette parole, le Christ lui-même incarné. La parole créatrice de la Genèse, c'est cette parole qui s'est incarnée, qui a été incarnée, qui a accepté d'être incarnée pour annoncer le salut et mourir sur la croix. Est-ce que nous sommes porteurs de cette parole-là pour tous ceux qui sont à Lodebar, dans un espace sans parole, sans espoir? Et je vous assure, j'ai pu nourrir des SDF pendant pratiquement 12 ans, tous les hivers, ils ont toujours faim s'ils ne sont pas à Christ. Mais nous avons à être, comme David, des porteurs de paroles qui rassasient le monde. La relation de bienveillance, David dira à Mephibosheth quand il arrive, « Ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. » Et vous savez, cela c'est aussi une question de volonté. Je veux te faire du bien. J'insiste beaucoup dans les préparations au mariage sur la place de la volonté. Je veux t'aimer. C'est pas je t'aime. C'est je veux t'aimer. Ah ouais, mais c'est plus joli. Je t'aime. Je t'aime. Non, il y a quelque chose de fort. Je veux aimer. Je veux que mon amour soit porté par ma volonté constante, permanente, jour après jour, mois après mois, année après année. Ah, mais moi, je t'aime et je t'aimerai tant que mes sentiments seront là. Oui. Une semaine, un mois, un an, c'est comme ça qu'aime le monde. Or, ce que dit Dieu, c'est, David dit cela à Mephibosheth, je veux te faire du bien, je veux t'aimer, je veux user de bienveillance. Est-ce que je veux être dans cette forme d'amour et de bienveillance? Une bienveillance qui repose sur l'agapé. Et même si cet amour repose aussi sur un acte, une œuvre de justice, alors c'est clair que être bienveillant, c'est pas forcément accepter tout. C'est pas accepter que les hommes ou les femmes les plus violents ou qui ont manifesté de la violence envers nous, je dirais, on les accueille à grands ouverts et qu'on leur saute au cou. Non. La bienveillance, c'est aussi quelque chose qui repose sur la justice. La bienveillance de Dieu par rapport à nous, elle repose sur la justice accomplie en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il peut être bienveillant. Mais encore faut-il accepter cette justice. Est-ce que je peux aussi accepter qu'il y ait une œuvre de justice aussi dans nos relations aux autres? Est-ce qu'il y a du pardon à vivre? Est-ce qu'il y a de la guérison du passé à vivre? Parce que s'il n'y a pas cette œuvre-là de justice qui est passée vis-à-vis de l'autre, c'est difficile d'être bienveillant. Vous croyez pas? La bienveillance, c'est bien. Il y a quelqu'un qui est contre? Non, ça va jusque-là? Je vais arriver au terme. Mais la bienveillance conduit à la bientraitance. Zut! Je croyais qu'on était arrivé au bout. Je repartais ce matin de l'église apostolique et j'ai compris, c'est la bienveillance qui compte, je dois être bienveillant, je vais être rempli d'amour, etc. Non, la bienveillance, ça conduit à la bientraitance. C'est un concept que j'ai beaucoup travaillé en travaillant en structure hospitalière pendant 28 ans, puisqu'on était amené à réfléchir sur est-ce que nous sommes bientraitants avec ceux que nous recevons. Et force est de constater que parfois, on avait beau être habité de la meilleure volonté pour être bienveillant, bien voir l'autre, c'est ça, bienveillance, bien voir l'autre, malgré ses deux pieds abîmés, Mephibosheth, malgré sa crasse, malgré ses comportements, malgré ceci, malgré cela. Je me suis dit, bon, je vais être bienveillant, je vais être bienveillant. Je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler avec les SDF, je m'étais posé une question. Ils devaient venir toutes les semaines me voir, notamment parce qu'on avait mis en place le RMI pour qu'ils aient leur argent pour la semaine. Et donc, j'avais une salle d'attente avec un peu comme chez le médecin, mais la population un peu différente. Et notamment, il y en avait certains. En matière d'hygiène, j'étais là, je dis, je fais quoi ? Et ma première question, vous savez, c'était, est-ce que je leur serre la main ? Et honnêtement, il y en avait certains, je les regardais, je dis, oh. Et j'ai dit, oui, si je dois faire preuve de bienveillance, il faut que je leur serre la main, comme tout à chacun. Donc je serrais la main. Je faisais l'entretien, j'avais un lavabo dans mon bureau, donc c'était bien. Je me lavais les mains, j'allais accueillir le 2, je serrais la main. Mais je m'étais posé la question, est-ce que je peux être bienveillant ? Oui, si je suis bien traitant. C'est-à-dire si ça se traduit en acte. Que serait la bienveillance, veiller sur le bien de l'autre, si ça ne me conduisait pas à le bien traiter ? David ne s'est pas compté de bien voir Mephibosheth. Il a eu le désir de le bien traiter. Tu mangeras à ma table tous les jours. Et Mephibosheth, nous pourrions dire que nous n'avons, au regard de Dieu, pas plus de valeur. Lui, il le dit. Hein. Qu'est-ce que je suis ? Je suis un chien mort. Moi, je me rappelle d'un un des premiers SDF dont je me suis occupé et auquel j'ai serré la main et ça m'a coûté. Il y avait des bêtes qui couraient. Vraiment, ils dormaient dans un buisson depuis des années, devant une église de l'Orient. Et quand je le voyais, je dis, je serrais la main, mais en même temps. Et puis on a pu faire un chemin pendant des années, et c'est devenu un ami, vraiment un ami. Parce que je suis passé du bien voir au bien traiter. Est-ce que nous pouvons, nous aussi, parce que nous avons été jugés de la même manière, je pense que quand Christ est venu vers moi, j'étais pas à prendre avec des pincettes. Vous savez. Oh, certes, j'avais pas de la vermine qui me courait dans la barbe et dans les cheveux, mais ce que j'étais en tant que pécheur faisait que... Ouais. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, viens dans mes bras, je t'aime. Est-ce que nous pouvons passer de la bienveillance à la bientraitance ? Et je donne au fils de ton maître, dit-il à Tsiba, tout ce qui appartenait à Saül. C'est-à-dire que je lui donne tout ce à quoi il a droit. La bienveillance et la bientraitance du Père en Jésus-Christ, c'est de faire en sorte que nous ayons tout ce qui est lié à notre héritage, même ce que nous n'imaginions pas. Et certainement que quand nous sommes venus à Christ, nous disions ben, « Ouais, j'ai plus rien, j'ai rien, j'ai pratiquement rien, etc. » Et puis là, tout à coup, le Père dit « Mais attends, t'as vu ton héritage ? Je te donne tout ce qui est à toi, parce que tu es héritier et co-héritier de Christ. » Alors, nous cultivons trop souvent la rancœur pour justifier notre maintien sur nos positions, sinon de colère, au moins d'ignorance de l'autre, de ce que Dieu attend de nous. Mais Dieu veut nous donner ce qui est notre héritage, et notre héritage est celui de Christ. Et l'héritage de l'autre, alors, c'est quoi ? Ben, l'héritage de l'autre, c'est aussi Christ. Celui envers lequel je ne suis pas bienveillant, bien traitant, c'est également un co-héritier de Christ en puissance. Est-ce que je suis prêt à ouvrir cette porte-là ? Est-il possible que ma non-bienveillance puisse priver l'autre de son accès et de sa découverte de son propre héritage ? Mon conjoint ? Ma femme ? Mon enfant ? Mon voisin ? Mon ami ? Est-ce que ma non-bienveillance, dont je suis le bénéficiaire en Christ, je vais la partager ou pas ? Seigneur, notre nature est ce qu'elle est, marquée par le péché et encline à nous garder repliés sur nous-mêmes. Accomplis ton œuvre de transformation en nous, que véritablement notre Dieu, la nature de Christ, grandisse en nous et nous transforme. Merci d'accomplir ton œuvre en nous, parce que la transformation du monde est à ce prix, le prix de la transformation de tes enfants et de ton peuple. Que nous puissions, de la même manière que tu as été bienveillant et bien traitant pour nous, l'être et le devenir pour ceux qui sont autour de nous. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos cœurs, rends nos esprits bien disponibles pour que nous soyons toi au milieu du monde.